Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Je dirais qu'il y a deux natures de problèmes différents. Un problème lié plutôt à l'algorithmie, au software, et un problème qui est vraiment lié au hardware. Donc, je voudrais surtout parler du hardware, donc je vais commencer par l'autre. Le problème lié à l'algorithmie, c'est vraiment le problème de trouver des applications à l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les applications les plus convaincantes, à mon sens, c'est vraiment l'attaque des systèmes crypto. Honnêtement, moi, en tant que physicien chez Alice et Bob, c'est pas pour ça que je construis une machine. C'est-à-dire que c'est probablement extrêmement intéressant pour des groupes terroristes ou pour des États mal intentionnés. Mais moi, je serais extrêmement malheureux si on me disait à la fin de la journée, la seule application de cette machine-là, c'est de casser les systèmes crypto, et probablement d'ailleurs que beaucoup de gens n'essaieraient plus de la construire, quoi, si c'était vraiment la seule application. Donc, j'ai une des applications les plus convaincantes dans le sens où pour ces applications-là, on a vraiment un problème dont la résolution est un algorithme quantique de bout en bout, dont on peut prouver mathématiquement la supériorité en termes de théorie de complexité. Ça, on est capable de démontrer que voilà, on sait faire ça, on saura faire ça en quelques heures si on avait un ordinateur quantique parfait, alors que ça prendrait ça prendrait des siècles avec le meilleur algorithme classique connu. Donc un gros enjeu de voilà pourquoi qu'est-ce qui fera que demain on a des ordinateurs quantiques dans toutes les entreprises, c'est vraiment ça, c'est cette capacité à transformer les problèmes industriels connus en des formes qui sont accélérables par l'informatique quantique. Et là vraiment je veux mettre profiter de cette occasion pour passer un message qui est important, c'est que bien souvent on prend un certain problème, par exemple l'intelligence artificielle, l'entraînement de réseaux de neurones, et puis on se dit voilà, il peut se mettre sous une forme où j'ai un algorithme quantique qui a un avantage sur le meilleur algo classique, et ça suffit souvent pour sauter aux conclusions de l'informatique quantique va complètement disrupter l'intelligence artificielle. En réalité, c'est absolument pas suffisant. Ce qui manque vraiment pour que ce soit utile dans l'industrie, qu'on puisse vraiment avoir un avantage business sur ces problèmes-là, c'est de coucher sur le papier la solution quantique de bout en bout, c'est-à-dire de prendre le problème, de le formaliser, de regarder combien de temps ça prendrait pour résoudre ça avec un ordinateur quantique, et de comparer ça aux meilleures méthodes classiques connues sur la taille de ces problèmes. Parce que parfois, il y a un problème pour lequel on sait que l'algorithme quantique peut être efficace, mais en réalité, la taille de ce problème, vous voyez, par exemple, pour être concret, quand je parle de problème, taille de problème, le problème, ça peut être le voyageur de commerce, la taille du problème, c'est le nombre de villes qu'il doit visiter. Et parfois, il se peut que le vrai problème qu'ont les industriels, c'est-à-dire l'instance typique, fasse que l'ordinateur quantique n'a pas d'avantage par rapport à la meilleure méthode classique connue. En fait, souvent, on se concentre sur l'avantage asymptotique de l'algorithme, hein, c'est-à-dire on a l'algorithme classique, il a une certaine complexité, on a l'algorithme quantique, il a une certaine complexité, et on voit que la complexité de l'algorithme quantique est meilleure. Ça veut dire vraiment si la taille du problème tendait vers l'infini, eh ben, l'ordinateur quantique serait plus puissant. Mais nous, ce qui nous intéresse dans l'industrie, c'est pas des problèmes de taille infinie. C'est le vrai problème qu'a l'industriel. Et bien souvent, quand on fait cet exercice de vérité, entre guillemets, de regarder, OK, concrètement, si on met les chiffres, ça donne quoi? Il y a encore des cas d'usage qui n'en sont pas, parce qu'on s'aperçoit que finalement, à cause des préfacteurs, des constantes qui se cachent, etc., du fait que l'ordinateur quantique est plus lent, par exemple, on s'aperçoit qu'en fait, à la fin de la journée, pour ce que font vraiment les industriels, l'ordinateur quantique ne servira à rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important que le hardware va arriver tôt ou tard. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de question. Je vois pas un monde où dans 20 ans, tout le monde dit « désolé, c'était trop dur, on arrête ». C'est extrêmement, c'est prouvé. Enfin, tout le monde est extrêmement convaincu qu'il y a un intérêt. Le hardware sera là un jour ou l'autre. Ce qui est important, c'est vraiment que les industriels travaillent aujourd'hui avec les acteurs du domaine en algorithmie pour vraiment préciser ces cas d'usage, pour qu'on ait une idée très claire de si demain je vous donne un ordinateur quantique parfait de taille infinie, qu'est-ce qu'on en ferait, où est-ce qu'il gagnerait de l'argent, à quoi il serait utile dans un premier temps. Donc ça, je dirais, c'est...
Et du coup, il serait utile sur trois grandes verticales, la cryptographie quantique, l'optimisation et la simulation.
Oui, et puis je pense qu'on peut rajouter le machine learning, qui est aussi qui est pour le moment encore un champ de recherche, mais qui est une catégorie un peu différente. Mais effectivement, ça c'est les grands domaines d'application. Donc ça c'est le premier défi, et le deuxième défi c'est la construction du hardware. Et construire le hardware, c'est extrêmement difficile. Le problème que les, il y a en grosso modo deux grandes catégories de problèmes. Il y a la qualité du hardware, c'est-à-dire le temps de cohérence quantique. Temps de cohérence quantique, c'est vraiment, voilà, j'ai expliqué qu'à cause des interactions avec l'environnement, quand j'ai un bit quantique, il se comporte de manière quantique et puis au bout d'un certain moment, il arrête de se comporter de manière quantique. Pour les circuits supraconducteurs, ce temps typique, c'est 10 microsecondes. 10 microsecondes, c'est 10 millionièmes de seconde. Ça veut dire que vraiment, au bout de 10, vous mettez l'information quantique dans votre bit, au bout de 10 microsecondes, elle est plus là, elle est perdue. Alors, comme ça, c'est même pas, vous avez même pas le temps de cligner des yeux, quoi, en se dire, bon, ça sert à rien. En réalité, la vraie bonne métrique, c'est plutôt le temps de cohérence par rapport au temps de porte. Et le temps de porte, ça peut être, par exemple, pour notre plateforme, typiquement 10 nanosecondes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un seul qubit, vous avez le temps de faire à peu près 1000 portes. Donc, c'est un petit algorithme. L'enjeu, c'est que nous, on voudrait plutôt d'avoir de quelques centaines à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de qubits. Et le nombre de portes typiques qu'on veut exécuter est plutôt de l'ordre de la centaine de milliards, ou voire beaucoup plus. Ça peut monter à 1 million de milliards de portes. Donc, il faudrait une machine avec 10 000 qubits qui reste cohérente de manière, qui continue à se comporter de manière quantique sur une échelle de temps qui peut varier de quelques heures à quelques jours. Et ça, c'est extrêmement difficile à construire.
D'accord. Parmi les dernières applications, on parlait de la simulation quantique. Alors, tu l'évoquais, il me semble, tout à l'heure avec les questions de molécules. Globalement, ça veut dire qu'on pourrait simuler n'importe quel système qui peut se rapporter, en tout cas sous forme quantique, et donc, en fait, prédire plein de choses dans l'industrie, c'est ça, en quelque sorte? Enfin, éviter de passer par des étapes d'expérimentation?
Exactement. Ça permettrait de faire vraiment de la prédiction de propriété. C'est-à-dire que aujourd'hui, on connaît les lois de la chimie quantique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de, pour reprendre l'exemple que j'ai détaillé, de simplement concevoir purement par simulation une molécule? C'est que la simulation de cette molécule est trop compliquée. On saurait faire avec un réacteur quantique, trop de temps.
Okay.
Et du coup, la manière dont c'est traité aujourd'hui, c'est qu'on va faire des modèles simplifiés. On va simplifier la mécanique de cette molécule et ça va nous donner des résultats approximatifs. L'idée d'avoir un système quantique, c'est vraiment d'éviter... Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est ce genre d'approximation? C'est une molécule, c'est plusieurs atomes, chaque atome a des électrons. Donc, en fait, c'est un système qui a beaucoup d'électrons et c'est très important de pouvoir calculer la structure électronique d'une molécule. Et quand ils sont corrélés, c'est-à-dire chacun des électrons interagit avec ses voisins, ça, c'est très difficile. Donc là, les méthodes classiques typiques qu'on fait et qui marchent dans bien des cas, c'est par exemple des approximations champ moyen. On va juste dire un électron voit le champ moyen de tous les électrons qui sont autour. Et ça donne des résultats qui sont suffisants pour plein d'applications. Donc là, en classique, on est très content, on a une méthode approchée qui est efficace. C'est pas suffisant si on veut concevoir un médicament, on a vraiment besoin de comprendre les propriétés de la molécule. Et donc là, la simulation chimique, c'est exactement ça. C'est juste dire, mon ordinateur quantique, je vais le mettre dans l'état de ces électrons de la molécule. Donc, je vais transformer mon ordinateur quantique en molécule. Et ensuite, juste en mesurant mon ordinateur quantique, c'est le résultat de l'algorithme, je vais pouvoir avoir accès à des hautes propriétés chimiques de cette molécule, mais de manière extrêmement précise.
Et ça, c'est que du hardware, le fait de transformer l'ordinateur quantique en molécule. Parce que moi, ça me semble impossible.
C'est hardware et software. Il y a toute une partie algorithmie. C'est vraiment le fait de... Ça, c'est des algorithmiciens, des chimistes qui vont dire, voilà comment... j'encode ma molécule dans l'ordinateur quantique. Et ensuite, vraiment, là où se passe la magie, l'accélération, le côté calcul exponentiel, c'est vraiment, ça se passe dans la machine quantique.
Et ça, aujourd'hui, c'est possible de transformer l'ordinateur quantique en molécule.
C'est possible, théoriquement, on sait comment faire. Ouais, là, c'est l'algorithme d'estimation de phase quantique dont je parlais. Et par contre, on n'a pas de machine quantique qui est de taille suffisante pour le faire en pratique.
Et c'est quoi qui bloque?
C'est vraiment le nombre de qubits. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, chez Alice et Bob, là, on a communiqué sur le fait qu'on avait une puce avec 4 qubits de chat. Donc 4 qubits de chat, c'est pas suffisant pour simuler la structure électronique de molécules intéressantes.
Il en faudrait combien?
Il en faudrait, j'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais c'est au moins quelques milliers. Je pense que je me mouille pas trop. Surtout, non, c'est pas ça le problème, parce que si on voulait aujourd'hui construire une puce avec 1000 qubits, on pourrait vous la faire. Vous me le demandez, on la design, je pense que dans 2 semaines, je pourrais la mettre entre vos mains, et dans 3 semaines, elle pourrait être froide dans votre frigo, elle pourrait être en train d'être mesurée. Le problème, c'est que si on construisait ces 3000 qubits physiques, là, ils se comporteraient pas de manière quantique. Ils décorreraient de manière trop rapide, à cause justement du temps de vie de l'information quantique qui est trop faible. Donc, c'est pour ça. Donc, Et donc le temps de cohérence qu'il faut atteindre. Donc en fait la bonne métrique, c'est tout à l'heure je disais voilà, un temps de cohérence c'est 10 microsecondes, un temps de porte c'est 10 nanosecondes. Donc il y a trois ordres de grandeur, c'est-à-dire j'ai le temps de faire 1000 portes. On peut le voir d'une autre manière de dire grosso modo, à chaque fois que je fais une porte, j'ai une chance sur 1000 d'avoir une erreur, enfin que l'information quantique soit perdue. Donc ce une chance sur 1000 c'est 10 puissance moins 3. Il faudrait avoir plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 10 à 10 puissance moins 15 taux d'erreur. C'est-à-dire sur un seul qubit, il faudrait arriver à faire de l'ordre de 1 milliard de portes, par exemple 10 puissance 9, pour faire quelque chose qui soit utile dans la simulation de système. Donc là, vous avez plusieurs manières de faire. Soit, aujourd'hui, on a un ratio 1000, typiquement. Donc soit vous multipliez le temps de vie de votre qubit par 1 million. Donc 1000 fois 1 million, ça fait 1 milliard. Donc maintenant, vous avez le temps de faire toutes vos portes. Soit vous divisez le temps de la porte par 1 million. Alors ça, quand vous avez une porte qui fait déjà 10 nanosecondes, il y a très peu, vous n'arriverez pas à, juste l'électronique sera pas si rapide. Donc l'option qui est regardée, c'est plutôt d'arriver à augmenter le temps de cohérence des systèmes quantiques. Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Il faut isoler le qubit le mieux possible de son environnement. Il faut trouver des bons matériaux. Depuis le début des circuits supraconducteurs, donc je parle de cette plateforme que je connais bien, il y a environ 15 ans, les temps de vie ont été multipliés par 100 000. Et ça, juste avec de l'ingénierie du système, des matériaux, de l'isolation électromagnétique, de la compréhension des systèmes physiques qui font que le qubit meurt, on est passé d'un temps de vie typique de 1 nanoseconde à 100 microsecondes, donc 5 ordres de grandeur. Aujourd'hui, j'ai dit, voilà, pour les applications les plus difficiles qu'on envisage, il faut encore gagner 8, 9 ordres de grandeur sur la qualité du hardware. Il n'y a aucune chance d'y arriver juste en continuant d'améliorer les matériaux. En fait, aujourd'hui, on voit que ça, au début, il y avait une progression assez rapide, comme souvent, puis maintenant, on est quand même sur des systèmes extrêmement optimisés. Voilà, ça continue de s'améliorer d'année en année, mais c'est vraiment, on parle de pouillème. On n'est pas sur quelque chose où on va pouvoir multiplier par 1 million. Donc là, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Heureusement, non. Il y a une théorie mathématique qui nous sauve, qui est la théorie de la correction d'erreur, qui nous explique comment on va pouvoir augmenter arbitrairement le temps de vie de l'information quantique, même si les systèmes physiques sont, eux, limités à ce qui se fait aujourd'hui de mieux.
Et à propos des qubits, j'ai également vu alors qu'a priori, Alice et Bob avaient signé un record de stabilité. À quoi ça correspond exactement, la stabilité d'un qubit? Enfin, c'est quoi la problématique?
Alors, la stabilité, en tout cas, ce qui est fait référence à la stabilité, là, c'est vraiment le temps de cohérence du bit quantique. Alors, vous avez dit, voilà, Alice et Bob annonçaient un record du monde de stabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on a le meilleur qubit au monde, les meilleurs temps de vie? Malheureusement, non. Pour un bit classique, il n'y a qu'un seul type d'erreur. Grosso modo, le bit peut prendre deux valeurs, 0 et 1. Donc, si je le mets dans 0 et qu'il se passe quelque chose de mal, il saute dans 1, j'ai perdu mon état. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement l'erreur de bit flip, hein, parce que ça flippe la valeur du bit. En mécanique quantique, comme on peut aussi mettre le bit dans un état de superposition, par exemple 0 plus 1, il y a une autre type d'erreur qui est purement quantique, qui est la perte de cette phase entre les deux. Par exemple, 0 plus 1 peut sauter vers 0 moins 1. Et donc là, on parle de phase flip, parce que c'est la phase de la superposition.
Il y a une dimension en plus,
qui saute. Exactement. Et donc, quand chez Alice et Bob, on a annoncé ce record de stabilité, on a annoncé le fait que l'erreur de bit flip, 0,1, avait un temps de vie extrêmement long. Donc, c'était 100 secondes en ce cas-là. Mais malheureusement, on n'avait pas 100 secondes sur l'erreur de type phase flip. Si on avait eu 100 secondes sur les deux, je vous avais dit, voilà, là, on a 10 microsecondes pour passer à 100 secondes, c'est 7 ordres de grandeur. Là, on était bon. Là, effectivement, je vous aurais construite la chip à 1000 qubits et puis on aurait commencé à faire des choses utiles.
Et les gros acteurs internationaux, type Google, Amazon, ils en sont où là-dessus?
Alors, il faut distinguer les stratégies des différents acteurs. Je dirais Google et IBM cherchent aujourd'hui à scaler la taille de l'ordinateur quantique avec un qubit supraconducteur qu'on appelle le transmon, qui est le qubit historique de notre domaine. Donc, le transmon, il a dû être inventé autour des années, début des années 2000. Alors, au début, c'était la boîte à paires de Cooper, puis il a été un petit peu amélioré. Et grosso modo, c'est un qubit qui est très simple à construire. Et depuis maintenant 15 ans, ils en optimisent les performances en faisant le pari que c'est la bonne brique technologique. Donc eux aujourd'hui, et ceux qui ont les meilleurs au monde, c'est IBM de très loin, ont des transmons qui ont un temps de vie de typiquement 1 milliseconde. Donc 1 milliseconde, c'est peut-être 10 à 100 fois supérieur que ce qu'ont tous les autres acteurs du domaine qui essaient de construire le même qubit, juste parce que IBM a passé 10 ans à en optimiser la fabrication. Personne ne sait comment ils font, hein. Ils ont une super salle blanche, des super physiciens. Google suit un peu la même approche. Pour tous les autres acteurs des circuits supraconducteurs, comme Alice et Bob ou Amazon, par exemple, qui a utilisé la même roadmap que nous, on pense que ces qubits-là ne seront jamais suffisamment bons. C'est-à-dire, même s'ils en ont énormément amélioré les performances, ils ne deviendront jamais suffisamment bons pour être vraiment la brique de base d'un système à 1 million de qubits. Donc nous, on cherche à construire un nouveau type de qubit, un qubit qui est un peu moins naïf, qu'on appelle le qubit de chat. C'est pour ça que sur le logo, il y a un chat, en référence au chat Schrödinger, qui est un qubit qui, justement, donc c'est ce qu'on évoquait, a un des deux temps de vie qui est extrêmement long, qui peut devenir extrêmement long, donc 100 secondes. Et du coup, la correction d'erreur quantique devient beaucoup plus facile, parce que l'idée de la correction d'erreur quantique, qui permet d'augmenter arbitrairement la durée de vie de l'information, c'est vraiment d'arriver à corriger ces erreurs-là. Donc, dans le cas d'IBM, il faut arriver à corriger deux erreurs qui arrivent chacune toutes les millisecondes. Dans le cas d'Alice et Bob, il faut corriger deux erreurs, mais il y en a une qui arrive une fois toutes les 100 secondes, donc qui est extrêmement rare, et l'autre qui arrive toutes les quelques microsecondes, comme les autres erreurs, ce que les gens ont. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est le paradigme, enfin, la différence entre la stratégie de Amazon et Alice et Bob par rapport à Google IBM, c'est vraiment d'arriver à trouver la bonne brique de base, quel est le bon qubit, quelles vont être les bonnes propriétés. Les bonnes propriétés, ça peut être soit des temps de vie très longs, mais les deux types de temps de vie, soit une espèce de structure dans le bruit, donc une erreur qui est très rare, comme ça, j'ai besoin que de corriger l'autre, peut-être, avant de scaler la machine. On peut placer, par exemple, Microsoft, qui est encore plus loin, qui a poussé ce raisonnement de manière extrêmement loin, puisque eux, le type de qubit qu'ils utilisent est pour le moment qu'un objet mathématique. C'est Michael Friedman, Medal Fields, américain qui a inventé ce qu'on appelle les qubits topologiques, les fermions de Majorana. Et donc, c'est un objet qui... c'est un qubit qui, s'il existait, serait extrêmement bon. Probablement, ce sera la solution ultime pour scaler un ordinateur. Mais en pratique, c'est juste un objet théorique. Ils ont jamais réussi à observer, à construire un système dans le laboratoire qui réalise ce qubit. Ils ont pensé avoir réussi il y a quelques années. Ils ont fait une publication dans Nature, qui est un journal extrêmement prestigieux. Et puis, ils se sont aperçus que les données avaient été falsifiées par un étudiant. En tout cas, il y a eu un énorme scandale où ils ont dû rétracter cette publication, faire leur mea culpa en disant désolé, finalement, on l'a pas observé. Et aujourd'hui, ils ont toujours pas de qubit. Mais pour vous donner un peu, voilà, il y a différentes philosophies. Il y a vraiment la philosophie, on prend un qubit simple, mais on l'améliore à fond et puis on fait le pari que ce sera ça, la solution. Ou le pari de dire, non, cette approche-là n'est pas raisonnable. Il faut inventer un qubit qui est bien meilleur, mais potentiellement beaucoup plus difficile à construire. Et ça, ce sera la solution. Et puis Alice et Bob est quelque part au milieu dans ce spectre.
Et vous vous situez, vous êtes plutôt dans les meilleurs de la classe ou...
Alors nous, on est sur la technologie des qubits de chat qui a été inventée théoriquement il y a un peu plus de 10 ans maintenant par une équipe de chercheurs à Paris, à INRIA, et en collaboration avec des chercheurs de l'université de Yale. Donc c'est le paradigme des codes bosoniques. Et donc pendant, je dirais, 6-7 ans, cette technologie a été développée par des académiques, comme souvent, donc vraiment juste de la pure recherche, des curiosités de chercheurs un peu fous. Et puis en 2019-2020, c'est vraiment le moment où cette technologie a commencé à être suffisamment mature pour que des industriels s'y intéressent. Donc c'est le moment où Alice et Bob a été créé par deux anciens étudiants de ce groupe, et moi j'étais aussi dans ce groupe, j'ai rejoint rapidement, avec comme ambition de dire ce qubit maintenant on pense qu'il a été suffisamment développé, il est prêt pour sauter dans le grand bain, et nous on veut industrialiser cette technologie. Et depuis qu'on a fait ça, il y a deux autres boîtes qui ont été créées. Donc Norquantique, une start-up canadienne, et puis Amazon. Alors Amazon n'a pas été créé, mais Amazon a annoncé son effort. Son plan. Ils sont lancés dans la course à l'informatique quantique fin 2019. Ils ont recruté une équipe en 2020 et ils ont annoncé leur roadmap publiquement en novembre 2020. Avant ça, ils faisaient pas d'informatique quantique. Et ils sont aussi lancés sur les qubits de chat. Donc aujourd'hui, il y a 4 boîtes au monde qui cherchent à faire des
et ils viennent, vous êtes toujours leader là-dessus parce que vous êtes premier et que vous avez verrouillé un peu vos technos dès le début, ou est-ce que ils viennent un peu vous chatouiller?
Alors, je dirais, historiquement, on est effectivement leader parce qu'on est parti avec de l'avance. C'est-à-dire, on a dans notre board scientifique la majorité des chercheurs qui ont inventé les qubits de chat. On avait commencé à faire de la recherche. On a effectivement énormément d'IP, de brevets sur des composants vraiment clés, c'est-à-dire sur des composants de circuits qui permettent de stabiliser un qubit de chat, et ça paraît extrêmement difficile d'envisager de faire sans. D'ailleurs, même dans les roadmaps de nos compétiteurs qui veulent faire des qubits de chat, ils veulent utiliser ce genre de composants, ce genre de technologie que nous, on a développé. Donc ça nous met dans une bonne situation pour dire qu'on est des leaders. Après, effectivement, c'est une espèce de compétition dont on se nourrit mutuellement. Parce que, par exemple, quand Amazon a publié sa roadmap, c'était quand même un papier de recherche de 120 pages. C'est beaucoup, 120 pages. Hein. C'est très rare d'avoir... qui était massif, dans laquelle ils ont proposé des améliorations d'architecture. Ils ont aussi développé des outils analytiques, des méthodes de calcul, des méthodes numériques qui permettent de bien simuler ces systèmes et dont nous, on se sert pour notre R&D. Oui, alors là, c'est de la recherche scientifique. C'est-à-dire, quand on propose une base mathématique, c'est pas quelque chose qui est protégeable, en tout cas, qui est difficile à protéger. Et nous, on a besoin de ce va-et-vient. En fait, on est compétiteurs, mais on est aussi sur une même technologie.
Mais c'est ça qui est aussi beau avec la recherche quantique, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont open source. Ce qui est de moins en moins le cas, par exemple, dans l'intelligence artificielle, où ça commence à être de plus en plus privé, et on commence à publier de moins en moins de choses, même si les gouvernements poussent pour que toute la structure des LLM et tout soit publique.
Je dirais sur la partie hardware, rien n'est open source au sens où on l'entend, la recherche est divulguée gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a des publications scientifiques et c'est extrêmement important. Nous, c'est très important de publier ce qu'on fait, ne serait-ce que pour attirer des talents, c'est-à-dire démontrer que vraiment Elisabeth est une des places fortes au monde dans la recherche sur les 4 qubits, et pour ça, on est obligé de publier. Mais en revanche, avant que quelque chose ne soit divulgué publiquement, tout est évidemment protégé, breveté. Et les secrets, en fait, les parties les plus critiques du hardware demeurent secrètes. Parce qu'en fait, même un brevet, c'est une forme de publication. Software. Sur le software, c'est un peu différent. Donc, je dirais les couches software qu'on utilise chez Elisabeth, on est une boîte hardware, ça va être vraiment être autour de des algorithmes de contrôle du BIOS quelque part de l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est pas des choses qui sont open source, c'est des choses qui pourraient l'être éventuellement, c'est des choses qu'on partage plus ou moins avec nos collaborateurs académiques parce qu'on a un énorme effort là-dessus industriel, donc on permet aux chercheurs d'utiliser un peu ces choses-là. C'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on valorise encore, ni d'un point de vue open source ou avec d'autres stratégies que l'open source, mais c'est quelque chose qui pourrait l'être à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment parce que nous, on a une boîte de hardware. Pour les entreprises qui sont full stack ou les entreprises qui sont plutôt sur les couches hautes, là, il y a énormément de choses open source. Par exemple, IBM anime une communauté autour de leur solution Qiskit, qui permet de faire énormément de choses allant de la simulation de circuits quantiques à la conception de puces quantiques. Enfin, ils ont différents modules autour de la correction d'erreurs, ce genre de choses. Et donc là, eux, ils sont vraiment dans une stratégie d'évangélisation, c'est-à-dire que c'est cette solution qui est assez bien faite et partagée, par exemple, avec tout ce qui est éducation, donc dans les universités, etc., pour tous les cours d'informatique quantique qui se montent. Donc il y a effectivement pas mal de ressources qui sont en train d'émerger. Ça vient du fait que c'est un domaine qui se structure avec pas mal d'open source, mais tout ce qui est autour du hardware, qui est vraiment le nerf de la guerre, hein, est encore très secret, très protégé.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.